Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Nous retrouvons notre évêque Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence, Lourdes-Pyrénées et de Radio Lapourdie. Bonjour Olivier Drapé.
Bonjour.
Vous êtes le délégué épiscopal à l'information et à la communication et vous nous accompagnerez tout au long de cette émission. Alors Monseigneur Marc Ayé, dans l'actualité récente, c'est la publication par le pape François de cette encyclique avec ce nom Fratelli Tutti. L'avez-vous lu? Qu'en avez-vous pensé?
Bien, en effet, je l'ai lu avec attention et c'est très important de lire un document qui est publié par le Saint-Père, qui est le Père commun dans l'Église, avec une bienveillance filiale. Je le dis parce que chaque fois qu'il y a un document qui paraît d'un pape, celui-ci ne déroge pas à la règle. Vous avez toutes sortes de commentaires contradictoires qui essaient toujours de tirer à eux la couverture d'une manière un peu partisane. Et il faut évidemment comprendre que le pape est complètement au-dessus de ces dialectiques et de ces divisions au sein de l'Église comme au sein de la société. Et donc je l'ai lu avec attention, j'ai profité de ce nouveau confinement qui m'a été imposé, ayant été déclaré cas contact, donc pendant quelques jours.
C'est la deuxième fois.
C'est la deuxième fois, oui, vraiment. Et donc, jamais 203. Et ça m'a donné l'occasion donc, de le lire avec attention. Et c'est un très beau texte, un texte dont le titre déjà est assez inspirant, puisqu'il est inspiré du témoignage de saint François d'Assise, comme la dernière encyclique, Laudato Si, en 2015, qui était tirée du Cantique des créatures de saint François d'Assise. Et le pape ne porte pas le nom de François pour rien. Et il reprend cette expression de saint François d'Assise, « Fratelli tutti », qui veut dire « tous frères et sœurs », on dira aujourd'hui bien sûr. « tous frères et sœurs ». Et sans doute qu'il s'est inspiré aussi dans la particularité qui caractérise notre monde contemporain, de cette rencontre de François d'Assise avec le sultan. Sans doute qu'il voulait convertir quand même, mais avec lequel il est entré dans une attitude de dialogue, en recherchant la réconciliation et la paix. Et ayant été habité, comme dit le pape François, de la paix intérieure, eh bien, il veut vivre en harmonie avec tout le monde, y compris avec le sultan. Voilà, le thème principal de cette encyclique, comme son nom l'indique, c'est le thème de la dimension universelle de l'amour fraternel. Et le pape nous indique dès l'introduction qu'il s'agit bien d'une encyclique sociale. Donc, on ne s'étonnera pas de lire dans cette encyclique un enseignement qui à la fois souligne des aspects extrêmement contemporains et donc adaptés au contexte actuel qui est le nôtre, qui aussi est traversé par les préoccupations particulières de notre pape François, mais dans une grande continuité par rapport à l'enseignement social de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, comme il le dit lui-même, en citant abondamment Saint Jean-Paul II, bien sûr, Benoît XVI, en particulier dans son encyclique sociale Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, et le compendium de doctrine sociale de l'Église qui avait été préparé à la demande du pape par la commission pontificale Justice et Paix.
Dans cette encyclique, il fait référence à des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas catholiques.
Alors c'est vrai qu'il dit au début dans l'introduction que de même qu'il avait été inspiré par le patriarche Bartholomée pour la publication de l'encyclique Laudato Si, donc l'importance écuménique aussi de cette leçon, si je puis dire, d'écologie intégrale, eh bien il dit qu'il a été encouragé, non pas inspiré comme certains disent, mais qu'il s'est senti encouragé par le grand imam Ahmad al-Tayed, je ne rappelle plus très bien le nom, et en particulier avec lequel il avait signé un texte sur la fraternité humaine.
Certains commentateurs, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être un peu partisans, ont dit que cette encyclique n'avait rien de catholique, que le pape était post-catholique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'ils ne l'ont pas lu. Quand on lit ce texte avec beaucoup d'attention, on voit d'abord que l'inspiration première, comme le pape le dit lui-même d'ailleurs, ce sont les convictions chrétiennes du pape. Et d'ailleurs, je crois qu'il prend, d'ailleurs, c'est très surprenant, dans cette encyclique, il reprend un peu le schéma des encycliques sociales de Jean-Paul II. Il commence par les ombres pour voir ensuite quelle lumière et où est-ce qu'il puise la lumière. Et comme il le dira, et la lumière, il la puise d'abord dans l'Évangile, et c'est comme le pape Jean-Paul II qui commençait toujours ses encycliques par le commentaire d'un texte d'Évangile fondamental. Par exemple, Veritatis Splendor sur les questions de morale fondamentale, il commence par le commentaire de l'Évangile du jeune homme riche. Et bien ici, et dans le deuxième chapitre, il prend la page d'Évangile du bon samaritain. Donc c'est vraiment dans l'Évangile qu'il puise son inspiration, commenté par les pères de l'Église, qu'il cite d'ailleurs abondamment, et ensuite, eh bien, il déploie sa réflexion personnelle, mais en s'appuyant vraiment sur l'enseignement social de l'Église, et je pense que celui qui l'a lu avec attention s'aperçoit que c'est effectivement ça qui est sa première source d'inspiration. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se sent pas encouragé par les dialogues qu'il a, ne serait-ce qu'avec l'imam en question, mais aussi avec d'autres, j'allais dire, sensibilités, croyances même, en disant, comme saint Paul dans les Philippiens, que tout ce qui est bon, vrai et saint dans les autres religions et dans les autres cultures, eh bien, est toujours bon à prendre et à souligner.
Dans cette encyclique, finalement, il compile un peu tout ce qu'il dit depuis qu'il est pape.
Alors voilà, c'est vrai qu'il dit ça dans l'introduction. Il dit qu'il est traversé depuis le début de son pontificat par ce souci de la fraternité, qui est un souci profondément chrétien d'ailleurs, qui est profondément évangélique dans le monde. Et donc, comme il en a beaucoup parlé déjà dans beaucoup de discours, d'interventions, de messages, comme pour la Journée mondiale de la paix, eh bien, il se permet de reprendre tous ces documents. Ce qui donne d'ailleurs un peu, c'est vrai, la caractéristique de ce document qui est assez, qui ressemble parfois à une sorte de patchwork d'intervention de documents précédents, mais on sent bien qu'il y a une ligne. D'ailleurs, il suffit de retracer les têtes de chapitre pour voir qu'il y a quand même un développement personnel qui se déploie.
Oui, Monseigneur, parmi les critiques ou les commentaires qu'on a pu entendre sur cette encyclique, il y a deux points qui reviennent assez souvent. Un reproche qu'on peut faire au pape, que certains font au pape, d'être un peu irénique ou un peu naïf concernant, par exemple, le problème que peut poser l'islam ou l'islamisme, d'une part, et d'autre part, le sentiment que certains concepts de la doctrine sociale de l'Église, en particulier ce qu'on appelait peut-être improprement la juste guerre, sont remis en cause.
Alors, je pense que là, ce sont des aspects qui sont contingents dans l'ensemble de ce document. Je ne vois pas de naïveté, en tout cas pour l'énoncé des principes. Ensuite, quand il parle de fraternité, il s'adresse, c'est vrai, à tous les hommes de bonne volonté, donc pas seulement aux catholiques et ni aux chrétiens. Donc c'est sûr que tout le vocabulaire théologique, qui est le soubassement d'une fraternité, d'une dimension universelle à la fraternité, n'est pas nécessairement explicité, même s'il dit très précisément que ce qui est le fondement et l'âme, il le dira dans le chapitre sur la meilleure politique, qui est l'âme de la fraternité, c'est la charité que Dieu répand. Et à un moment, il dit, il faut bien reconnaître qu'il y a une fragilité humaine que les catholiques appellent la concupiscence, avec saint Jean d'ailleurs, et que contre cette fragilité humaine, eh bien, on ne peut la combattre qu'avec l'aide de Dieu. Donc on voit bien que le soubassement profondément théologal et théologique de la charité sociale, qu'il reprend d'ailleurs à Pie XI, il y a toute la lignée des papes qui ont constitué ce trésor de la doctrine de l'Église, est vraiment présent. Mais il s'adresse à tous et il dit que la source de l'amitié sociale, on ne l'attire pas seulement de la foi, mais aussi de la raison. Et c'est très important parce qu'il parle de ses principes et de ses valeurs universelles qui précèdent tout consensus, mais qui fondent un vrai consensus social dans le dialogue, qui sont inscrits dans la nature humaine et qui sont des principes non négociables. Il reprend même l'expression que nous connaissions de Benoît XVI, pour fonder une vraie fraternité entre les hommes. Et alors ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est qu'il montre bien, et c'est là où il n'est pas naïf, comme on veut le faire croire, il montre bien l'articulation entre le local et l'universel, entre le particularisme étriqué et l'ouverture à l'universel, tout en disant ben, tout commence dans le local, c'est le fameux principe de subsidiarité. Et en même temps, il dit on ne peut pas accueillir, par exemple, l'étranger qu'on va accueillir parce qu'il fuit des crises humanitaires, c'est j'allais dire, l'angle d'approche de cette question de l'immigration ou des migrations que le pape a choisi, si on n'est pas amant de son peuple, qu'on n'aime pas sa culture et qu'on est bien enraciné dans son identité. D'ailleurs, il parle d'intégrer et on n'intègre pas si on n'intègre pas dans une culture préexistante qui est la nôtre, si vous voulez. Donc je crois qu'il y a vraiment là des articulations. Quant au la théorie de la guerre juste, et il faut bien préciser ce qu'il dit. C'est sûr qu'il ne développe rien sur la fameuse théorie dite de la guerre juste, qui est d'ailleurs impropre, parce que ce sont les motifs qui peuvent être justes d'une guerre, dans la théorie traditionnelle de l'Église, et la guerre n'est jamais juste en elle-même, bien sûr, hein, puisqu'elle comprend forcément de la violence et d'un déploiement de force. Mais il dit seulement qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est marqué par le développement des moyens de destruction des armes de destruction massive, et de nouveaux moyens de guerre bactériologique, chimique, etc., la technologie aussi, qui facilite encore la guerre, et dans ce contexte de mondialisation, où dès qu'il se passe quelque chose localement, ça peut avoir des répercussions universelles, eh bien, il dit exactement, je vous cite le numéro 258, face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels, mûris en d'autres temps, pour parler d'une possible guerre juste. Jamais plus la guerre, c'est la fameuse expression de Paul VI devant l'ONU, dont on se souvient bien.
On aurait pu continuer longtemps, malheureusement le temps presse. Monseigneur Hayet, vous invitez les chrétiens, les catholiques à lire cette
encyclique. Oui, j'invite vraiment à la lire avec une bienveillance filiale, comme tout document qui émane du pape. Bien sûr qu'il peut y avoir des opinions plus contingentes, mais elles ne doivent pas cacher l'essentiel, le cœur de l'encyclique, qui est un message profondément enraciné dans ce monde de l'Église.
Radio Lapourdi.
Monseigneur Hayet, je souhaiterais revenir avec vous sur le sujet de la bioéthique, qui est un sujet qui vous tient à cœur. Un projet de loi a été récemment voté en seconde lecture à l'Assemblée nationale, le 1er août. Projet de loi dont le contenu, effectivement, est très discutable et problématique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous aviez, dans un courrier, le 24 septembre, demandé aux prêtres laïcs, aux paroisses, aux mouvements, d'accueillir avec bienveillance, on va dire, les éventuelles sollicitations du collectif Marchons Enfants ou des associations familiales catholiques qui appelaient à manifester le 10 octobre. J'ai deux questions. Premièrement, avez-vous manifesté vous-même le 10 octobre? Et ensuite, pour quelles raisons, pouvez-vous nous rappeler pour quelles raisons, autrement dit, quels sont les enjeux, si vous voulez, de ce projet de loi bioéthique qui vous inciterait qui vous incite à vous y opposer?
Alors d'abord, moi, je n'ai pas pu manifester, même si j'en avais, c'est vrai, l'intention. Je devais rejoindre le groupe qui se rassemblait à Pau. Je ne l'ai pas pu le faire parce que j'étais donc confiné par force, puisque j'avais été déclaré cas contact, puisque j'ai été en contact avec quelqu'un qui était déclaré positif. Donc, selon les précautions sanitaires en vigueur, je suis resté à la maison. J'ai accompagné de la prière et du jeûne. D'ailleurs, c'est ceux qui ont pu manifester leur opposition à ce projet de loi. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai invité les prêtres et les responsables de mouvements et de services de notre diocèse, non pas à inciter à manifester, hein, comme vous rappelez la nuance de mon propos, mais à accueillir avec bienveillance ce collectif Marchons Enfants, dont des représentants nationaux avaient été accueillis par la Conférence évêque de France, en son conseil permanent, quelques jours auparavant, et pour demander peut-être aux évêques un peu d'encouragement. Et de fait, les choses ont un peu changé, comme Mgr de Moulin-Beaufort, président de la Conférence évêque de France, le dit dans une interview la veille dans le Figaro, en disant les générations ont changé, et c'était important, aujourd'hui, vu les enjeux, d'accueillir, pour bien comprendre et échanger avec eux, ce collectif de mouvements qui ont appelé à manifester leur opposition à ce projet de loi bioéthique qui, je le rappelle, a été à la hussarde, en catimini cet été, adopté par 101 par les députés de l'Assemblée nationale en seconde lecture, alors qu'il n'y avait que 101 députés présents sur 577. Et non pas selon le mode d'un vote solennel, mais à main levée, ce qui est quand même assez étonnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu considérable, hein, qui n'est pas rappelé par Mgr Hayem, mais qui est rappelé par les évêques d'une manière très générale, et en particulier la Conférence des évêques de France, à travers son comité bioéthique, qui est présidé par l'archevêque de Rennes, Mgr Dornelas. On sait bien en effet que, il y a évidemment la question de la PMA. Hein. Je rappelle d'ailleurs que l'Église s'est prononcée déjà d'une manière très précise sur la procréation médicalement assistée, y compris dans le cadre prévu pour l'instant par la loi des couples hétérosexuels dont l'infertilité a été médicalement diagnostiquée. Car c'est au départ pour pour accompagner une nature déficiente, que la PMA a été légalisée jusqu'à présent. L'Église même, dans ce cas-là, dit qu'il y a une substitution de la technique à la nature qui n'est pas juste, qui est d'ailleurs très incohérente à l'heure de l'écologie, du tout écologie, où on est bien conscient que, par notre technoscience, on a fini par se substituer à la nature et par détruire la nature avec, soi-disant, les effets boomerang que l'humanité en reçoit aujourd'hui. Donc on ne voit pas comment, d'un côté, la technoscience est mauvaise parce qu'elle détruit la nature et elle se substitue à elle, et là, elle serait bonne quand il s'agit, en plus, du sommet de la nature créée, en tout cas pour nous, les chrétiens, quand on lit, et les juifs, quand on lit la Bible, quand il s'agit d'attenter et de substituer la nature pour la conception et la vie, de la vie humaine, voyez. Bon. Sachant en plus, comme vous le savez, que la PMA n'est pas sans risque pour la femme, et en particulier aussi pour l'embryon, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de PMA qui réussisse sans, généralement, destruction d'embryons. Et pour nous, l'embryon humain, c'est le deuxième volet de ce projet de loi bioéthique, c'est la personne humaine qui est en gestation et en formation. Depuis la conception, nous ne connaissons pas, et ça c'est scientifique, un seuil où commence la vie humaine, autre que celui de la fécondation de la première cellule. Ça c'est une donnée absolument dogmatique, si je puis dire, de la science génétique. Oui, parce qu'ensuite, il y a aussi l'action de la filiation. Si on ouvre la PMA pour toutes, aux femmes, eh bien la PMA, la filiation ne vient plus seulement de la nature, c'est-à-dire de l'engendrement, nécessairement d'un homme et d'une femme, parce qu'il faut des gamètes masculins et féminins pour accéder à l'embryon humain. Mais la filiation est soumise à un simple projet parental, et donc un simple désir des adultes. Donc l'enfant qui commence par être un embryon, comme chacun d'entre nous, eh bien, devient l'objet, un objet, il faut bien le dire, et ne plus un sujet, l'objet d'un désir des autres, l'objet strict du désir des autres. C'est la remise en cause pure et simple de la nature de la génération humaine, et même d'une certaine manière, et c'est paradoxal dans notre monde d'aujourd'hui, de la négation de la corporéité qui fait partie intégrante de la personne humaine. Voilà. Ensuite, c'est tout ce qui tourne autour de l'autorisation des expérimentations sur les embryons qui deviennent instrumentalisées au profit de d'autres intérêts qui peuvent être d'ailleurs d'ordre scientifique et derrière, comme on le sait, d'ordre économique. Parce qu'on sait bien que derrière la bioéthique, il y a aussi une bioéconomie et il y a un marché, avec le risque de la GPA, comme on le sait, qui inéluctablement sera à nouveau sur le devant de la scène, ne serait-ce que pour honorer le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes. Si un couple de femmes peut accéder à la parentalité par la technique, pourquoi un couple d'hommes ne pourrait pas y arriver ? Avec le risque donc évident de la marchandisation du corps humain qui, sur lequel on a attiré l'attention. Ensuite, c'est les folies qui sont inscrites dans ce projet de loi, comme les embryons transgéniques, hein, quand on combat les OGM, par ailleurs. Et je dirais les embryons chimériques. On va mélanger l'animal et l'humain. On voit bien que la frontière entre l'homme et l'animal est en train d'être abolie, et quelquefois, au profit de l'animal, et qui devient tout d'un coup un sujet de droit, et au détriment de l'homme. C'est quand même une sorte d'inversion des valeurs qui est très dangereuse pour l'avenir de l'humanité. Et puis j'ajoute la cerise sur le gâteau, si je puis dire, de ce projet de loi, un train, semble-t-il, peut en cacher un autre, qui n'avait absolument pas été prévu et attendu, c'est la décision de pratiquer une IMG jusqu'à 9 mois, ce qui se pratiquait déjà, hein, quand il s'agit d'une interruption médicale de grossesse, hélas, mais pour cause de détresse psychosociale, alors que l'argument de la détresse inscrit par Simone Veil dans la première loi dépénalisant l'avortement a été annulé, comme par hasard, il y a quelques années, pour faciliter le recours à l'IVG. Pour cause de détresse psychosociale de la mère, pour un embryon et un enfant qui pourrait être parfaitement sain.
Par ailleurs, Monseigneur Hayel, l'Assemblée nationale a voté plus récemment, il y a quelques jours, en première lecture, l'allongement du délai légal de l'avortement qui passerait de 12 à 14 semaines de grossesse et par ailleurs aussi la suppression, je crois, de la clause de conscience spécifique des personnels de santé en matière d'IVG. Comment réagissez-vous à cela ?
Alors, c'est très grave tout ça. La clause de conscience, ça veut dire que le médecin pourrait être obligé de pratiquer un avortement sous peine de sanctions pénales, pas seulement de perdre son poste, mais aussi d'encourir des sanctions. C'est donc faire collaborer quelqu'un à une décision qui, soi-disant, n'appartient qu'à la femme. Bon, alors qu'elle porte un enfant qui ne fait pas partie de son corps, c'est-à-dire qui est en son corps, mais qui n'est pas identifié à son corps. Ça aussi, c'est une chose qu'il faudrait aussi rappeler de manière évidente. De toute façon, l'avortement, pour nous et dans l'Église, vous le savez bien, est toujours un drame. C'est vrai pour la femme qui avorte hein, et qui n'est pas de toute façon objet de condamnation. Le but n'est pas là. C'est l'acte sur lequel nous apportons un discernement moral. Et qui est équivalent à un meurtre. C'est bien ce que nous dit le pape Saint-Jean-Paul II dans son encyclique Evangelii Vitae, dont nous célébrons cette année le 25e anniversaire, la suite du Concile, qui parle, lui, de crimes abominables. Mais en même temps, 14 semaines, on sait que le fœtus est complètement constitué, qu'il est ossifié. Et donc, on s'horrifie, on est à juste titre, de penser que le médecin va être obligé d'écraser la boîte crânienne de ce petit fœtus, qui est parfaitement repérable dans une échographie, pour pouvoir l'éliminer par aspiration. Alors évidemment, là, on voit bien que le docteur Nizan lui-même, qui a toujours été un partisan farouche de l'avortement, dit lui-même, non, mais là, on ne trouvera pas de gynécologue, on ne trouvera pas de médecin qui accepteront, en tout cas de moins en moins, d'écraser un fœtus ainsi constitué. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même là une limite, une ligne rouge qui est en plus complètement dépassée. Et c'est vrai aussi pour la suppression de la clause de conscience. Mais ceci dit, ça n'est pas parce que l'Assemblée nationale, dans une première lecture, a adopté possibilité hein, d'allongement du délai de l'avortement que le Sénat en sera saisi. Car il s'agit d'un projet de loi qui était porté par un groupe parlementaire qui n'existe pas au Sénat. Donc il est possible que ça ne voie jamais le jour. Grâce à Dieu.
Nous nous retrouvons dans quelques instants, nous parlerons de la crise sanitaire.
Radio La Pour Dire à TIA, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Hayet. Alors, vous-même, vous l'avez dit, vous sortez d'un deuxième isolement en 6 mois. La crise sanitaire bat son plein, puisque nous sommes dans une seconde vague. On enregistre cette émission le 14 octobre. Le président de la République va s'exprimer ce soir et on nous annonce peut-être de nouvelles restrictions. Comment vous les avez vécues, ces restrictions ? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'atteinte à nos libertés publiques ?
Oui, d'une certaine manière, moi j'avoue ne plus rien comprendre, parce que comme vous le savez, on entend toutes sortes de voix assez discordantes, de la part d'ailleurs de scientifiques qui sont tous extrêmement compétents. Vous parlez d'une seconde vague, ça a été décrété effectivement par le gouvernement. Il semble quand même, et d'ailleurs il suffit de voir les effets hein, de l'épidémie aujourd'hui, qu'on ne peut pas vraiment parler de seconde vague, mais d'un rebond, sans doute, dans la circulation du virus, d'une première vague qui a existé et encore pas partout, car nous ne l'avons pas tellement connue, quant à nous, dans notre département, où le nombre de décès dus, en tout cas au Covid, même si on peut même douter qu'ils soient tous effectivement avérés, eh bien, est très infime. Hein. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, même si on regarde tous les décès cumulés à l'échelle de notre nation, et même à l'échelle du monde, que cette épidémie soit vraiment effrayante. D'ailleurs, on parle pas vraiment, on peut pas vraiment parler d'une pandémie. Une pandémie, semble-t-il, les scientifiques nous disent que c'est 12% de décès. Or là, c'est pas 12%, je crois que c'est 2%.
Vous êtes Covid sceptique.
Je suis pas Covid sceptique. Je m'interroge. Je crois que le virus existe. Oui, c'est vrai qu'il circule. Il a une contagiosité qui est plus grande sans doute que d'autres virus. Mais il n'est pas si mortel que ça. Et en particulier aujourd'hui. Donc, j'arrive pas à bien comprendre pourquoi ces restrictions nous prolonge encore dans, c'est vrai, ce qui peut devenir une atteinte aux libertés publiques, liberté de circuler, d'aller, de venir, de se rencontrer. On sait combien la relation sociale est essentielle, mais on voit bien qu'on est vraiment aujourd'hui dans une culture que l'on nous impose et qui devient de plus en plus contre nature et auquel certains commencent à réagir, qui est une culture profondément individualiste. Où les relations, finalement, sont utilitaristes. Donc, dès lors que la relation risque de mettre en péril ma santé individuelle, eh bien, et même si on le dit de manière altruiste en disant on va protéger les autres, eh bien, on va s'isoler de plus en plus les uns des autres. Et c'est pas juste. Est-ce qu'il va falloir qu'on tolère longtemps que dans nos églises, on soit contraint de porter un masque ? On se dit, mais qu'est-ce qui va pouvoir l'empêcher ? Si aujourd'hui, l'épidémie n'a plus la même virulence qu'elle l'avait au mois de mars, d'avril, où on n'était pas obligé de porter le masque en permanence. Et si aujourd'hui on nous oblige à le porter, il est fort à craindre, pour des raisons qui sont peut-être de précaution, qui sont peut-être de peur d'assumer des responsabilités au plus haut niveau de l'État. Qu'est-ce qui va faire qu'un jour on va nous dire, non, c'est plus la peine de porter le masque ?
Par exemple, un peu inquiétant. Si on nous demande de nouveau de supprimer les cultes comme on l'a fait en mars et avril dernier, comment vous allez réagir ?
Moi, personnellement, je m'y opposerai et je demanderai je demanderai autant que je puisse le faire, mais je ne suis qu'un simple évêque de mon diocèse, je demanderai que l'Église se positionne de manière ferme contre ce qui me paraîtrait être une atteinte grave à la liberté de culte, parce que pour l'instant, que je sache, il n'y a aucun cluster qui soit né dans nos assemblées.
La crise sociale est là, avec cette crise sanitaire. On parle d'un million de personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté en France. La situation est grave au niveau social.
Oui, c'est ce qui me fait penser aussi qu'on continue quand même de détourner l'attention des citoyens des vrais drames qui se profilent et qui sont dus aussi à une, semble-t-il, à certaines incompétences, pour le moins au niveau du gouvernement. Je pense par exemple au monde de la santé. On a fait croire qu'on avait augmenté le nombre de lits de réanimation en toute hâte, en supprimant bien d'autres actes médicaux et chirurgicaux qui ont mis beaucoup d'autres personnes sur le carreau, les a laissés sur le carreau, des personnes dont les protocoles de traitement ont été à suspendus pendant des mois. Hein. Aujourd'hui, le problème des hôpitaux, le problème du personnel de soignant n'a pas été résolu. On le voit bien, puisqu'aujourd'hui, le personnel soignant est complètement à cran. Et comme on leur annonce sans arrêt une seconde vague qui finalement n'arrive pas vraiment, aujourd'hui, ils partent en burn-out, ils descendent dans la rue, et ils en sont un peu empêchés par les restrictions sanitaires. Vous voyez, c'est quand même à double tranchant, ça. Et les mouvements sociaux sont entravés aussi par ces restrictions sanitaires, parce que rien n'est prévu. Alors on subventionne, la planche à billets a fonctionné de manière étonnante, alors qu'il n'y avait pas d'argent d'argent il y a un an lorsqu'on demandait d'augmenter le budget de la santé. Aujourd'hui, on subventionne tout le monde. C'est extraordinaire, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Sauf qu'on ne va pas subventionner les gens éternellement. Donc quand on va arriver à la fin de l'année, ben, il va y avoir des dépôts de bilan, de quantité de petites entreprises, qui vont pas, de sous-traitants et autres, qui ne vont pas pouvoir continuer. Et à côté de ça, les grandes fortunes n'ont jamais été aussi à l'aise. Quand on voit la critique du néolibéralisme actuel, insistante à la suite de ses prédécesseurs, mais de manière très insistante, du pape François dans Fratelli Tutti, nous y sommes complètement à plein. Comme vous dites, le seuil de pauvreté, le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté grandit de manière alarmante, et les grosses fortunes font profit de cette situation. Donc on peut se demander quand même si, je dirais, il y a à la fois détourner l'attention des vrais problèmes qui vont se retrouver extrêmement fin d'année ou début de l'année prochaine, difficiles à supporter par les citoyens, et aussi parce qu'on attend cet hypothétique vaccin comme la panacée universelle et qui est aussi un marché extrêmement lucratif. Pour certaines firmes pharmaceutiques qui financent aussi pas mal de lobbies au sein de notre société.
Monseigneur Hayet, dans l'actualité politique, il y a également le discours du 2 octobre dernier du président de la République, Emmanuel Macron, qui met en cause assez clairement ce qu'il appelle le séparatisme islamiste, en annonçant un projet de loi et peut-être aussi une réforme de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Il y a eu beaucoup de commentaires suite à cette prise d'opposition un peu critique. On craint que, effectivement, nos concitoyens musulmans ne se sentent stigmatisés, par exemple. Personnellement, comment réagissez-vous? Qu'en pensez-vous?
Moi, je suis un peu étonné et un peu inquiet de la manière dont les choses vont se régler. C'est vrai qu'il y a un problème de l'islamisme. Bon, c'est pas nouveau, hein. C'est une question qui est récurrente dans notre société et qui aujourd'hui devient tellement prégnante dans la vie de nos concitoyens que le discours officiel finit par stigmatiser ce qu'on appelle aujourd'hui le séparatisme. Je ne sais pas comment il faut employer cette nouvelle expression, mais pourquoi pas, elle peut en effet être juste. Sauf que la résolution du problème, c'est, si j'ai bien compris, une modification de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui va donc impacter tout le monde. Pas seulement les islamistes, pas seulement les mosquées fondamentalistes, qu'il suffirait tout simplement de fermer, et tout simplement de dire, là on a dépassé les bornes, c'est un trouble à l'ordre public tel qu'il faut régler ça de manière circonstanciée et casuelle. Sauf que là, on s'approche d'une modification de la loi qui pourra faire que, dans une église, si dans notre discours nous posons des principes qui sont tirés de l'Évangile et de la loi naturelle et qui s'opposent à certaines lois de la République, eh bien on sera susceptible de sanctions. Je crois qu'il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Sous prétexte de séparatisme, de lutter contre le séparatisme, encore une fois, islamiste, car je crois que c'est là qu'il y a un trouble à l'ordre public qui peut conduire à des violences et des incitations à la haine et à la violence et un passage à l'acte qui se multiplie aujourd'hui sur notre territoire, et bien on va pénaliser toutes les confessions religieuses et nous en particulier, dont la culture est quand même tirée, qui risquons d'être pénalisés dans notre discours. Tout simplement parce que nous devons annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, même si c'est à contre-courant des lois de la République.
Monseigneur Hayet, le président Macron a également évoqué son intention de retirer aux parents qui le souhaitent le droit ou la liberté d'instruire eux-mêmes leurs enfants à domicile. Est-ce que ça n'est pas aller trop loin?
Oui, parce que on craint que dans l'éducation, les enfants soient formatés dans un projet de contre-citoyenneté. C'est vrai sans doute d'école coranique, dans lesquels les parents musulmans mettent leurs enfants, où ils sont parfois formatés, c'est vrai, par des imams fondamentalistes. Mais est-ce que c'est vrai, même dans le monde musulman, des parents pour leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans ? C'est un déni de droit naturel des parents à éduquer leurs enfants selon les valeurs de leur choix. Et là encore, ça va impacter tout le monde. Sous prétexte de traiter le problème du séparatisme lié à une minorité, eh bien, la minorité s'impose à la majorité. Et moi, je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas en train d'entrer dans un vrai déni de démocratie dans nos sociétés modernes.
Nous vous retrouvons, Mgr Ayé, dans quelques instants.
Radio Lapourdi.
Monseigneur Marc Ayé, dans cette dernière partie, nous allons parler de la vie du diocèse, de Bayonne, Lescarré au Loron. Alors, l'événement qui a marqué la rentrée, comme chaque année, c'est le pèlerinage diocésain à Lourdes, le 13 septembre dernier. Un pèlerinage particulier cette année.
Oui, très particulier, puisque, hélas, nous avons été contraints de réduire le format du pèlerinage à la journée diocésaine du dimanche, sachant que, malgré notre désir d'amener les malades, donc l'hospitalité basco-bernaise s'était bien mobilisée pour amener un certain nombre de malades le samedi, pour avoir une belle journée avec les malades à Lourdes. Et bien finalement, on était obligé de l'annuler à cause des restrictions de l'Agence régionale de santé, qui est obligée à dépister tous les malades, à tester tous les malades, pardon, et à se contenter de remplir les bus à moitié. Donc on n'a pas, devant de telles restrictions, et bien ils ont été obligés de capituler. On a quand même eu un millier de personnes, je dirais, qui ont participé à la messe diocésaine à la basilique Saint-Pédis, avec les distanciations physiques évidentes. Donc c'était quand même un beau moment, et moi j'ai insisté auprès de ceux qui étaient là, en les remerciant d'avoir bravé les risques, y compris les représentants de l'HBB, de représenter les autres, les malades en particulier. C'est quand même le comble, que ce soit les malades, les personnes les plus vulnérables, celles qui en ont plus besoin, qui attendent avec tant d'impatience et d'espérance cet événement annuel du pèlerinage de Lourdes, qui soient les plus pénalisés par cette crise sanitaire, et que les malades ne puissent plus aborder la grotte pour confier leurs soucis, qui n'est pas seulement celui du Covid, hein, parce que quelquefois il y a quand même des maladies et des états de santé qui sont bien plus dramatiques que le Covid, et bien ne pas pouvoir le confier à la Sainte Vierge dans cette démarche de pèlerinage qui est si importante. J'avoue ne pas bien comprendre comment nous en sommes empêchés et comment les structures mêmes des sanctuaires de Lourdes ne font pas tout pour permettre, dans les conditions sanitaires souhaitable, l'accès des malades à ce genre de pèlerinage. Et puis, j'ai insisté aussi auprès des fidèles pour leur dire, mais surtout, n'ayez pas peur, ne vivons pas dans la peur. Cette distanciation sociale qui nous est imposée pour des raisons sanitaires ne doit pas impacter nos relations de communion fraternelle. Hein, au moment où on nous dit « fratelli tutti », il faut qu'on ait la possibilité de se rencontrer, de se retrouver. Et puis aussi, je pense d'avoir le souci de notre relation avec le Seigneur. Le salut des âmes est plus important que la santé du corps. Et si nous ne prêchons pas cela, tout en étant prudent, bien sûr, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Et finalement, il n'y aura plus qu'à... On va se transformer en une ONG et on va fermer boutique.
Le 6 octobre, c'était la journée de rentrée des catéchistes. Et là, vous avez présenté aux catéchistes du diocèse le nouveau directoire qui a été promulgué pour la catéchèse. Alors, pouvez-vous, en quelques mots, nous dire ce que contient ce texte ?
Alors, comme son nom l'indique, un directoire général de la catéchèse, qui est promulgué par le Saint-Siège, par un dicastère compétent avec l'approbation du pape. Aujourd'hui, c'est le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, présidé par Mgr Fisichella. Autrefois, c'était la Congrégation du clergé, mais c'est Benoît XVI qui avait transféré cette mission au Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, qui est d'ailleurs très symptomatique, puisque c'est d'ailleurs le thème de ce nouveau directoire. Et sa particularité, c'est le lien entre la catéchèse et l'évangélisation dans le contexte actuel. Donc, comme son nom l'indique, directoire, c'est-à-dire que c'est un document directif et donc normatif, hein, pour l'Église universelle, même s'il est sujet à des adaptations nationales et diocésaines. Il faut savoir que le premier directoire général de la catéchèse qui a été publié l'a été par Saint Paul VI en 1971, précédé par le grand événement du Concile, que Paul VI appelait d'ailleurs le grand catéchisme des temps modernes. Bon. Ensuite, c'est quelques 25 ans plus tard, c'est le pape Saint Jean-Paul II qui a promulgué un nouveau directoire général de la catéchèse en 1997, précédé par deux grands événements. D'abord, le synode sur la catéchèse, qui a donné lieu à une exhortation apostolique post-synodale de Saint Jean-Paul II en 77, Catechesi Tradendi. Et puis, c'est aussi la publication du catéchisme de l'Église catholique en 1992. Donc, tout ça demandait aussi une nouvelle formulation de ce directoire. Et enfin, quelques 23 ans plus tard, donc nous sommes en 2020, c'est sous l'autorité du pape François qu'est publié ce nouveau directoire général de la catéchèse, qui s'inscrit dans la continuité des autres, qui nous rappelle que la finalité de la catéchèse est toujours la même, c'est-à-dire la rencontre avec le Christ, la rencontre vivante avec le Christ qui transforme la vie, hein, c'est ça le but de toute catéchèse, permettre aux enfants, mais aussi aux jeunes, mais aussi aux adultes, parce que ça ne s'adresse pas seulement à la catéchèse scolaire, hein, ce directoire, eh bien, de leur permettre de rencontrer vraiment Jésus-Christ, à travers sa parole et les sacrements, et au sein de la communauté, et vivre en disciple du Christ, hein, devenir des disciples du Christ. Mais la particularité, comme je l'ai déjà dit, de ce directoire, c'est vraiment le lien entre la catéchèse et l'évangélisation, et dire que cette catéchèse doit être profondément kérigmatique, c'est-à-dire enracinée dans une première annonce qui fait défaut pour la plupart des enfants qui sont inscrits aujourd'hui en catéchèse.
Monseigneur Hayet, dans un communiqué qui vient d'être diffusé par vous-même, par Monsieur l'abbé Biche, vicaire général, et puis Madame Domi Pommiès, responsable de la catéchèse, est annoncé, à la surprise générale, je pense, la fermeture, le 31 décembre prochain, des librairies catéchétiques, Le Monde de Théo à Pau, Catechéa à Bayonne. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Alors c'est en effet un tsunami. C'est pas nouveau pour les gens qui sont les acteurs de ces librairies et les gens qui font partie des associations, car ils savent bien la difficulté qu'est la nôtre. Depuis que la CRER, confrontée à de grands ennuis financiers, qui est une coopérative à laquelle nous adhérions pour la constitution de ces librairies et qui seule nous permettait de pouvoir assurer ce service dans le diocèse, la CRER a été obligée de signer un contrat de partenariat avec Bayard, hein, qui est une édition qui n'est pas spécialisée dans la catéchèse, mais qui a eu besoin de la CRER pour se spécialiser dans la catéchèse. Sauf que ce qui était pour nous un peu un risque, d'ailleurs d'autres l'avaient vu, puisque par exemple Bordeaux a quitté la CRER dès lors que ce partenariat a été institué, nous avons quand même joué le jeu de ce partenariat CRER-Bayard. Finalement, Bayard, après avoir récupéré l'édition catéchétique, il n'y a pas d'autre mot, hein, donc en faisant une OPA sur la CRER, a fini par se détacher de nos librairies en disant, même l'expression a été prononcée au cours d'une assemblée à Angers, je crois, qu'elle était obligée de se séparer de ses branches pourries, en parlant de nos librairies catéchétiques du Monde de Théo, de Bayonne et de Pau. Donc c'est dire que nous avons été quand même floués, et comme ce communiqué le dit, cette situation que nous ne faisons que subir n'est que la conclusion d'un processus, et certainement que dans cette affaire, nous ne pouvons que regretter la manière brutale d'agir de Bayard, qui nous met sans crier gare, dans une situation plus qu'embarrassante, parce que coupé de ce partenariat, eh bien, l'association diocésaine n'a pas les reins assez solides, surtout dans le contexte actuel, pour assumer de manière indépendante des librairies qui ne sont pas suffisamment bénéficiaires. Hein, on avait fait une étude financière de marché. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps depuis cette annonce au mois de juin pour pouvoir prendre cette décision. Mais à notre corps défendant, on est obligé aujourd'hui de mettre la clé sous la porte. Alors évidemment, on a tout à fait conscience que c'est un tsunami dans le diocèse, parce que c'est un beau service qui était rendu. C'était un lieu de rencontre, hein, entre les catéchistes, les fidèles, le service de la catéchèse, les salariés qui ont assuré leur mission avec beaucoup de compétences.
Que vont devenir les salariés ?
Alors ça, c'est un accompagnement qui, évidemment, est primordial pour nous. C'est évidemment eux qui ont été les premiers informés des décisions prises par les présidents des associations en question. Et on va les accompagner du mieux qu'on pourra. Mais c'est sûr que ça va être, ça a un impact. Et nous sommes évidemment très, très dans cette sollicitude première.
Que vont devenir les locaux ?
Ben les locaux, de toute façon, ils sont des locaux diocésains, pour lesquels les librairies ne payaient d'ailleurs aucun loyer, ce qui explique qu'il y avait encore une petite marge possible. Mais ben on va voir. Bien sûr que ça va rester diocésain, mais pour l'instant, il n'y a pas de plan de reprise de ces locaux par une autre activité.
Monseigneur Marc Caillé, dans votre éditorial, dans votre dernier éditorial, vous invitiez les fidèles du diocèse à créer des fraternités pour partager la parole de Dieu.
Oui, c'est ce grand souci.
C'est votre orientation pastorale de cette année ?
Un petit peu, oui. Disons que c'est une idée qui me traverse depuis longtemps. L'aspect communautaire, cet aspect, l'un de ces cinq essentiels dont on a parlé l'an dernier, qui est celui de la fraternité, qui est le thème, encore une fois, choisi par notre Saint-Père qui donne aussi une orientation à la vie de l'Église, Fratelli Tutti. Comment constituer dans nos paroisses un esprit communautaire et donc un esprit fraternel, sachant que nos assemblées sont constituées de beaucoup d'individus, plus beaucoup de familles, il faut quand même reconnaître, qui se retrouvent, qui se connaissent pour certains, qui ont des affinités, qui peuvent former des groupes d'affinités à la sortie de la messe, même si aujourd'hui, c'est avec la crise sanitaire, c'est un petit peu moindre. Mais on ne peut pas, dire qu'il y a un sentiment d'appartenance à une communauté qui a beaucoup grandi. Peut-être aussi avec l'élargissement du territoire de nos paroisses, il y a déjà un peu 20 ans. Alors comment reconstituer un esprit communautaire et un esprit fraternel ? Qu'est-ce qui a constitué le rassemblement de l'Église ? Église, ça veut dire convocation. C'est Dieu qui appelle, qui convoque les hommes pour constituer une assemblée, une communauté. C'est la prédication de la parole. C'est l'annonce de la parole. Donc je me dis, avec beaucoup d'autres, bien sûr, mais c'est une question d'expérience ecclésiale, ça, et chrétienne, fondamentale, eh bien que si on se retrouve davantage autour de la parole de Dieu, en la scrutant avec notre foi et en partageant l'écho de cette parole dans notre vie, eh bien on va aussi faire grandir la communion profonde entre nous, au-delà d'une communion purement sociologique. Je me dis que quand on partage l'écho profond de la parole dans notre vie à quelques-uns, l'autre qui peut me paraître un peu antipathique parce que je travaille ou je vis avec lui et nous ne sommes pas en affinité, nous n'arrivons pas à nous entendre, ça c'est des choses qui arrivent et c'est bien naturel, on ne se connaît pas finalement à l'étage profond de notre vie. Et le partage de cet écho peut faire qu'on peut découvrir l'autre différemment et le regarder différemment et grandir dans un esprit de fraternité.
D'autres orientations pour cette année ? C'est déjà beaucoup ce que vous venez de
dire. C'est déjà beaucoup, mais je crois qu'on est toujours dans la lancée de ces cinq essentiels pour lesquels on avait bien commencé avec un rassemblement des conseils paroissiaux. La crise sanitaire et le confinement ont tout arrêté, mais on est reparti aussi là-dessus pour la journée diocèse en fête que nous espérons ne pas être prise dans les glaces d'une troisième vague.
Merci beaucoup, Mgr Ayé. Merci, Olivier Drapé.